à Rencontre spirituelle aujourd'hui, en ce 10 décembre. C'est l'anniversaire du décès d'une Québécoise, pour ainsi dire, bien qu'elle soit née aux États-Unis de parents québécois. Elle est née à Woonsocket. C'est sœur Marie-Angèle du Sacré-Cœur, de son nom de jeune fille, Cora Dumas, comme les Dumas, n'est-ce pas? Et elle était donc Clarisse, donc une religieuse franciscaine, si on veut, du monastère de Valleyfield, tout près de Montréal. Elle est née en 1906, elle est morte à 37 ans, en 1943, en odeur de sainteté, de la vie de toutes ses sœurs et de la vie de tous les gens qui la connaissaient. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. C'est aujourd'hui l'anniversaire de son décès. Mais elle est née, comme je vous ai dit, à Woonsocket, dans le Rhode Island, le 2 novembre 1906. Son père s'appelait Joseph Dumas, sa mère Maria Bocage. Et la mère de Cora était une Canadienne québécoise originaire de Saint-Barthélemy dans le comté de Berthier, d'où ma famille vient, moi aussi. On dit qu'un sourire cachait toujours ses peines, son endurance. Elle avait un esprit de sacrifice qui était basé sur une foi à toute épreuve. Et cette mère, typique de l'époque, comme il y en avait beaucoup, n'est-ce pas, et je pense bien qu'il y en a encore beaucoup, bien, elle va laisser ça en héritage à son enfant. Son souci constant à cette mère, au dire d'une religieuse de la présentation de Marie, c'était de cultiver avec soin cette âme qui lui semblait un peu naïve et douce. Mais elle n'était pas naïve, loin de là. Elle va faire des études sérieuses. Elle s'intéressera même à Don Scott. Elle s'intéressera à toutes sortes d'études, même scientifiques. Et c'était là, pour cette mère, toute sa science, elle, parce qu'elle ne savait ni lire ni écrire. C'est sœur Marie-Angèle elle-même, Cora Dumas, qui explique, car elle a beaucoup écrit à la demande de sa supérieure, un peu comme Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle écrit cela à une amie, cette fois-ci, dans une lettre. Cela était dû en grande partie à son dévouement, parlant de sa mère, son dévouement désintéressé, qui lui a fait sacrifier l'avantage d'aller à l'école dans son enfance et sa jeunesse pour aider sa mère à la maison. Elle était la plus âgée d'une nombreuse famille et sa mère était presque toujours malade et il fallait absolument qu'une de ses filles abandonne l'école. Et alors ma mère fit ce sacrifice avec son désintéressement habituel pour l'amour des autres enfants qui ont pu ainsi fréquenter l'école du village. Et sœur Marie-Angèle ajoute dans cette lettre, et j'en suis reconnaissante car ma mère n'avait que 17 ans lorsqu'elle immigra du Canada, donc du comté de Berthier, aux États-Unis. Son inhabilité à parler l'anglais à sa mère, qu'elle refusa d'apprendre afin que nous n'oublions pas complètement notre français, lui fut une autre sauvegarde, bien que cela la rendît démodée, ignorante des matières et des manières modernes. Sœur Marie-Angèle ajoute, j'ai toujours aimé ses robes longues, ses cheveux séparés au milieu, ses idées pas très modernes. Toujours, elle fut bien solitaire, évidemment, puisqu'elle ne parlait pas anglais à Woonsocket, et elle trouvait son bonheur à rester à la maison tranquille, consacrant son temps et ses devoirs domestiques. Mais il est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui parlaient français à cette époque à Woonsocket, car nous avons été, ici au Québec, saignés à blanc presque par cette émigration vers les États-Unis et vers l'ouest du Canada, n'est-ce pas? Son père était natif de Québec. Sœur Marie-Angèle fait de lui un portrait plutôt flatteur, bien qu'il était un croyant, mais elle va réussir à le convertir. C'était un époux dévoué, dit-elle, un père aimant et digne de l'affection des siens. C'était un homme intègre, d'une charité irréprochable dans ses actes et dans ses moindres paroles, qui était rare chez ce taciturne, comme bien des hommes, un taciturne. Et elle ajoute, mais qui, après la mort de sa mère, une de ses saintes mères d'autrefois, sa grand-mère, s'était laissée ébranler dans ses convictions religieuses et ne pratiquait plus depuis au-delà de 25 ans. Se pourrait aussi que la mort prématurée de ses 9 premiers enfants ait contribué à endurcir le cœur de son père, à le détourner de Dieu, qui pourtant, dit-elle, sait mieux que nous ce dont nous avons besoin, c'est une parole classique. À l'âge de 3 ans, elle répétait après son père, sans trop savoir ce qu'elle disait, ces paroles d'une chanson. C'est étrange. Je crois en Dieu, mais pas en la robe noire. Des chansons un peu anticléricales. Et cependant, elle remarque que son père n'allait pas à la messe le dimanche. Il sortait souvent seul, toutefois, mais jamais avec sa femme. Elle a eu beaucoup à souffrir de son mari. Un petit coup d'épingle depuis leur mariage, qui avait eu lieu le 5 février 1898. Sa mère a enduré en silence pour garder la paix au foyer. Et une des causes de cette souffrance a été précisément l'affection sans borne de M. Dumas pour sa petite Cora, sa petite fille, la future sœur Marie-Angèle. Une affection qui aurait tant ressemblé à celle de, vous savez, M. Martin pour sa petite Thérèse Martin, Thérèse d'Enfant Jésus. Mais c'était pas aussi surnaturel, évidemment. Il en oubliait les autres pour faire les 4 volontés de sa fille. Et puis, la petite était plus ou moins bien élevée parce qu'elle faisait des, comme elle raconte, des petites câlineries à son daddy. Puis elle obtenait tout, tous les jouets imaginables. Tandis que sa mère devait travailler sans fin, même pour des choses nécessaires. Que de fois, dit un témoin, je la voyais passer des heures à l'église, toujours à la même place, sans bouger, devant la statue de son confident et consolateur Saint-Joseph. Et je l'ai rencontrée souvent au sortir de l'église, elle avait les yeux baignés de larmes. Et c'est pas pour rien que, après son départ de Woonsocket pour le couvent de Valleyfield, le monastère de Valleyfield, bien, alors qu'elle était postulante, elle va écrire « cher papa, soyez bon et bien tendre pour maman. Elle a beaucoup souffert, elle n'a pas eu beaucoup de bonheur et essayez de rendre sa vie heureuse maintenant que vous n'avez plus à penser à moi. » Vers l'âge de 4 ans, Cora va passer 1 an à Montréal avec ses parents. 1 an. Sa mère ainsi que ses 2 tantes maternelles ont visité ensemble plusieurs églises accompagnées de la petite et à l'occasion de ces visites, il semble qu'elle ait pris le goût de visiter ce qu'elle appelait la maison de Jésus. Mon petit-fils appelait ça le château du bon Dieu. Toujours est-il qu'elle va aimer, comme Saint François, user le seuil de la maison de son unique et incomparable ami. Un jour, la petite Marie-Cora, alors âgée de 5 ans, échappe au regard de sa surveillance de sa mère. Tout le monde est en émoi et c'est sa mère qui la trouve enfin dans l'église voisine agenouillée au pied du maître-autel. Et lui dit, dis-moi donc ce que tu fais là. Et elle répond, je demande à Jésus de faire de moi une sœur. C'est un fait enfantin, mais pour elle, c'est pas un jeu d'enfant. Ça a son importance dans la vie de cette sœur, sœur Marie-Angèle. Et plus tard, elle avouera elle-même, « Je me souviens que toute petite, j'avais un grand désir de devenir une sainte. J'aimais à contempler longuement les saints perdus dans l'or et les couleurs des verrières de notre église paroissiale. Il y en avait dans chaque fenêtre et des 2 côtés. Et lorsque le soleil venait augmenter leur beauté et leur splendeur, le spectacle était ravissant. On se serait cru au ciel. J'aimais tous ces saints personnages. » Mais Sainte Agnès, dont je vous parlerai bientôt, avec sa blonde chevelure, et Sainte Rose de Lima avec sa couronne de roses, me charmait le plus. Je ne me lassais pas non plus de regarder les gravures d'un grand catéchisme en images, et je préférais les tableaux des saints en oraison, au désert, ou dans quelque solitude, car c'est là, pensais-je, ce que c'est que d'être une sainte. Alors la vocation religieuse de Cora est un écoulement du cœur de sa mère chrétienne, au fond. Ça lui vient de sa mère. Et quant au père de Cora, bien, lorsqu'elle a pu réaliser qu'il n'était pas tellement pieux, ça lui a fait énormément de peine, évidemment. Monsieur Dumas laissait baptiser quand même ses enfants. Mais jamais il n'a voulu entendre parler de l'école catholique pour sa fille unique. J'ai été éduquée, dit-elle, dans des écoles païennes. Et durant des années, ma ferveur était comme morte. Et elle parle de l'immense différence qui existe entre les écoles neutres et les écoles catholiques. Entre 1918 et 1919, Cora obtient de M. le curé la permission de lire des Vies de Saints d'une bibliothèque paroissiale. Et puis, elle joue à la sainte des jeux d'enfants. Elle fait comme Sainte Thérèse d'Avila, qui portait de l'eau bénite. Elle se met en prière assez longtemps et ses petits amis trouvent que c'est beaucoup trop long. Elle dit d'ailleurs, sœur Marie-Angèle, elle raconte de par écrit, « Durant mes années d'école, j'ai lu et approfondi des centaines de livres et d'écrits sur la botanique, l'ornithologie, la zoologie, l'anthropologie, l'anatomie et diverses autres sciences. C'est une jeune fille intelligente et curieuse. Il me suffit donc, ajoute-t-elle, de regarder une fleur ou un oiseau, ou même d'entendre le cri d'un insecte, pour que cela réveille en moi tout un monde de connaissances. » Il y a quelque chose de franciscain dans tout ça, au fond. « Je me suis passionné, dit-elle, pour les sciences, surtout les plus nobles, que je connaissais alors, l'astronomie, la géologie, la littérature, l'histoire ancienne, surtout l'histoire de la Bible, l'histoire biblique. Elle dira tenir en partie de son père, qui était un bureaucrate autodidacte, en partie aussi de sa grand-mère d'origine allemande, cet amour des livres et un certain esprit chercheur. Passer des heures au fond d'une bibliothèque à consulter de vieux bouquins et d'antiques manuscrits faisait ses délices. Quand au contraire, elle lisait à la maison, ordinairement en mangeant quelques bonbons ou en buvant un bol de café, il fallait pas déranger mademoiselle. Si alors sa mère lui demandait un service, elle répondait invariablement, « Oui, oui, maman, j'y vais. » Mais sa mère avait le temps de tout faire avant qu'elle ne bouge. Une bonne tasse de café et un beau livre de littérature, dira-t-elle plus tard, « Voilà mes deux amours avant ma conversion. » Mais qu'est-ce qui va se passer? Cora Dumas, à 18 ans, songe à devenir une sainte. Et ça demeure la hantise de sa vie. Elle cherche l'unique nécessaire. Et alors, se précise l'appel du Christ, entendu à l'âge de 5 ans, et elle sera une sœur. Une sainte sœur. Mais ses parents étaient navrés à la pensée de perdre leur unique enfant. Jamais ne lui permettrait d'aller s'enfermer dans un couvent. Et c'est dans le monde qu'elle devrait donc se sanctifier, pense-t-elle. En attendant d'être majeure, il ne restait donc à Cora qu'à espérer, et encore à convertir son père par ses prières et sa vie de pénitente, et elle choisit ce parti. Et nous verrons comment elle va réussir à rentrer chez les Clarisses de Valleyfield, en dépit de l'opposition de son père et de sa mère. Alors, Cora Dumas devient enfant de Marie, comme on le faisait souvent à l'époque. Il y avait les dames de Sainte-Anne, les enfants de Marie, les gens d'un certain âge se souviennent de ça. Elle devient enfant de Marie le 9 avril 1924. Alors, elle prie Dieu de lui montrer un moyen de donner sa vie afin que son père voie. Qu'il puisse voir, qu'il ouvre ses yeux. Elle le trouve enfin le 20 août de la même année. C'est par l'entremise de Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle offre à Dieu sa vie en faisant sien ce fameux acte d'offrande de soi-même comme victime d'holocauste à l'amour miséricordieux du bon Dieu, selon les paroles et les textes de Sainte Thérèse d'Enfant Jésus. « Je désire être sainte, dit cet acte. Je le sais, ô mon Dieu. Plus vous voulez donner, plus vous faites désirer. Je sens mon cœur des désirs immenses, et c'est avec confiance que je vous demande de prendre possession de mon âme, afin de vivre dans un acte de parfait amour. » Alors, grâce à une amitié humaine forte et sainte qui se développe au courant de cette année 1925 entre Cora et Mademoiselle Olive Venn de Pittsfield, au Massachusetts, que nous devons de connaître l'état d'âme de Cora à cette époque, parce qu'elle a gardé des tas de textes et de lettres, ils ont été très amis. Ça se révèle dans une série de lettres, justement, que nous a conservées, Olive. Il y a des choses très intéressantes dans tout ça. Il y a 2 semaines, mon saint confesseur, inspiré de Dieu, a mis fin instantanément à mon désir fou de beauté physique et périssable. Et maintenant, toutes choses sont belles lorsque vues dans la lumière du soleil de Dieu. La beauté des âmes est devenue ma passion, écrit-elle. Alors, quelques mois auparavant, Cora disait à sa confidente, « Parce qu'on vous enseignait à aimer les belles choses du monde, vous vous appelez méchante. » Mais non, 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 ma très chère sœur. Il y a beaucoup de belles choses dans le monde. Saint François d'Assise, le plus grand amant de la pauvreté, n'a-t-il pas aimé le monde et n'a-t-il pas dit qu'il est beau? Alors, quant à son ami Olive, ne se sent pas encore ce courage de te considérer comme de la balayure pour se livrer au Christ. Et Cora lui écrit donc, « Je comprends vos sentiments pour les avoir éprouvés moi-même lorsque je vivais à Pittsfield. Je pensais que la vie religieuse était bien belle et noble, mais je me sentais trop attaché pour ne me briser jamais avec le monde. Il y a que quelques mois, il me semblait impossible de porter autre chose que des bas de soie de qualité. Mais maintenant, je n'en voudrais pas, non plus qu'aucune autre étoffe délicate. La grâce de Dieu touche en un instant. Alors le grand empêchement de mon progrès spirituel, ajoute-t-elle, est mon attachement au confort physique. Je devrais pratiquer la pénitence et les mortifications les plus sévères, mais loin de là, je me laisse aller honteusement à mes aises. Je vous le dis, si vous ne faites pénitence, vous périrez tous. Alors, quelle terrible sentence de Jésus pour moi. Mon cher Jésus, je vais vous dire, voilà que j'ai tout quitté pour vous suivre. Oh, je suis faible et imparfaite. Dernièrement, j'ai eu entre les mains un beau petit livre intitulé « Ascension de l'âme », un vrai trésor qui m'aidera à voler à mon père et à trouver le repos. Adieu, mon père. J'y ai trouvé dans la préface un beau paragraphe. À ceux qui se sentant appelés à la vie mystique, refusent de la suivre, n'est-ce pas le cas de rappeler cette phrase « Il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus » Alors lisez les réponses que vous donnent les saints. Quelques-uns, dit notre Seigneur à la bienheureuse Angèle de Foligno, d'entre ceux qui ont Dieu pour illuminateur, les appelant à la vie mystique, ferment les oreilles de peur d'entendre et les yeux de peur de voir. Ils se détournent malgré la voix intime et suivent la voix commune, la voix ordinaire. Ceux-ci seront rejetés par le Tout-Puissant. Je vomis les tièdes, c'est dit dans l'Apocalypse. C'est sévère ces paroles-là. Très sévère. Mais elle écrit, la vie religieuse est si belle, si belle. C'est la perle d'un grand prix. Si vous vous plaignez de manquer de consolation, écrit donc un jour Cora à son amie Olive, j'ai si peu de temps à ma disposition pour vous en parler que je crains d'être incomprise. Combien souvent le démon nous tente de la penser que c'est un désir irréalisable qui anime notre cœur de devenir des saints. Ah, mais Jésus a dit, ne l'oubliez pas, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alors comment notre désir peut-il être impossible si Jésus en a fait un commandement, hein? Elle est jeune et elle réfléchit très très bien, je trouve. Elle ajoute, le premier pas dans la vie spirituelle est fait par le choix d'un confesseur. Oh, je désire vous parler des confesseurs. Vous me dites que vous ne pouvez en trouver un qui vous aide. Alors priez Dieu avec beaucoup de ferveur de vous envoyer un saint confesseur, car c'est une grande grâce. Un bon confesseur est un ami véritable dans un monde perfide, un aide dans nos faiblesses, une consolation dans les peines. Je ne puis vous le répéter avec trop de force. Priez, priez, pour obtenir un directeur inspiré. Et ensuite, ma très chère sœur, je vous en prie, communiez souvent, tous les jours, si possible. Jésus est là, oui, dans le tabernacle, abandonné, méprisé. L'abandonnerez-vous, vous aussi? Ah, ne refusez pas plus longtemps. Allez immédiatement. Et alors, Cora indique ensuite un troisième moyen pour avancer dans la vie spirituelle, c'est la méditation. Et Cora explique un quatrième moyen aussi indispensable pour arriver à la vie mystique, le sacrifice. Puis, à son programme de vie en Dieu, Marie Cora, qui n'est pas encore religieuse, ajoute un cinquième et dernier moyen, la dévotion aux saints et leur imitation. En novembre 1925, elle s'était mise à la plus belle école du détachement et de l'amour. Quelle est cette école? C'est celle de Saint François d'Assise, dont le tout est d'aimer l'amour qui n'est pas aimé. C'était pendant passé pour rater son entrée au cloître, par la conversion de son père. Voyant qu'elle ne pouvait pas faire fléchir son père dans sa résolution, elle vient un jour trouver sur la galerie du presbytère le directeur de la fraternité. Il lui demande, chose étrange en toute simplicité, la permission de porter tous les jours en public le grand habit, l'habit des tertiaires, c'est un habit de moniale franciscaine. Alors Cora fait le renoncement de tout. Elle porte l'habit des tertiaires dans le monde. Elle passe pour une vraie folle. Quelqu'un dit, elle en avait l'air d'ailleurs. Quelqu'un d'autre dit, elle passe pour une exaltée. Pourtant, c'est une fille intelligente. On la suit, on la moque, on l'épie. Je ne crois pas que la jeune fille s'en rendait compte. Elle était toujours en la présence de Dieu. Elle ne pouvait pas quitter la présence de notre Seigneur dans le tabernacle sans une profonde impression de regret. Elle aimait demeurer au pied de Jésus. Il n'y a pas de doute que la présence de Dieu ne la quittait jamais, mais Cora ressent quand même toute l'amertume du mépris et du sarcasme, et souvent au retour de ses courses d'humilité où on l'avait traitée de folle, d'hypocrite et même de sainte nitouche, elle montait dans sa chambre, et malgré elle, elle pleurait un peu. Et un jour, en annonçant à ce rangé-là son entrée chez les Clarisses de Valleyfield, elle demandait des prières et dit naïvement, « Depuis longtemps, je fais rire de moi. C'est ce qui me coûte le plus. Mais on ne paie jamais trop cher l'âme de son père et j'espère la gagner. » Elle se mortifiait aussi, absolument en tout, même dans ses lectures. Un peu dommage. « Quand j'appris à connaître le tiers-ordre, dit-elle, j'ai mal compris l'attitude de notre père Saint-François à l'égard des études et de la science, et comme je croyais devoir renoncer à tout ce que j'aimais, je me privais de maintes lectures qui n'auraient pas été superflues dans mon cas. » Alors, avant même de traverser le seuil du cloître, le cœur de son père fond enfin. Il se convertit à Dieu. Il se confesse à Montréal, le jour même où Cora va entrer au cloître. Elle écrit, « Le jour même de mon entrée au cloître, il est allé se confesser, et afin que j'en sois bien certaine, il se fit donner, par le prêtre qui lui a administré le sacrement, un billet de confession. C'était à l'église Saint-Stanislas à Montréal, sur le boulevard Saint-Joseph. Et Marie Cora était maintenant impatiente de voir s'ouvrir les portes du cloître. Elle va donc signer désormais Sœur Marie. Elle peut seule nous renseigner sur les impressions douloureuses de cette mort à soi et aux siens. Elle le fait dans différentes lettres de cette époque. Elle écrit, « Mon cher papa, je vous remercie du fond du cœur pour la joie que vous m'avez faite en accomplissant ce bel acte d'humiliation d'aller vous confesser. Quand vous me l'avez dit, je ne pouvais rien répondre, j'avais le cœur trop plein, et l'après-midi du 2 juillet, si je paraissais avoir bien hâte d'entrer, et si je ne vous ai pas montré toute mon affection, c'est que je craignais de trahir mon émotion. Je connaissais le grand sacrifice que vous faisiez. Je savais que votre cœur souffrait. Je ne voulais pas que vous sachiez que le mien était brisé. Oui, mon cœur s'est brisé depuis que j'ai résolu de vous quitter. Mais c'est par amour pour vous que j'ai fait ce sacrifice. Alors, parce que je vous ai beaucoup aimé, que j'ai pu vous quitter. Jamais je n'aurais pu aimer un être mortel assez pour vous quitter pour lui. » Alors la jeune femme dont nous parlons, Cora Dumas, qui est devenue sœur Marie-Angèle chez les Clarisses de Valleyfield, est une sœur qui désire devenir une sainte, comme nous avons vu dans la première demi-heure. Vous êtes à l'écoute de Rencontres spirituelles à Radio Ville-Marie au poste FM 91,3. C'est une émission diffusée tous les jours à 10h le matin et reprise à 11h le soir. Elle écrit, cette religieuse, « Tout est si beau ici. » Elle vient d'arriver. « Tout est si beau ici, si fervent. Il y a tant de pur amour. » Toutes mes mères et mes sœurs, les mères, ce sont les cinq qui sont dans le conseil de direction et à l'abbesse, la prieure, la sous-prieure et deux conseillères. Tout est si beau ici, si fervent. Il y a tant de pur amour. Toutes mes mères et mes sœurs sont des âmes très chères à Jésus et elles lui donnent toutes une grande gloire. Vraiment, notre monastère est comme un paradis. Maintenant, je ne désire plus mourir jeune. Il me semble que je n'ai qu'un désir, celui de faire la volonté du bon Dieu. Mais qu'est-ce que ce monastère? Le monastère établi à Valleyfield appartient à l'ordre des Clarisses, fondé par Saint-François lui-même en coopération avec, évidemment, Sainte-Claire, en 1212. On l'appelle le second ordre. Le premier ordre, ce sont les franciscains, second ordre, les Clarisses. Et il y a le tiers ordre ou le troisième ordre, constitué de laïcs. Elle faisait partie du troisième ordre avant d'entrer. Les deux ordres se sont relâchés à un moment donné. Au 15e siècle, est apparue une jeune Française qui s'appelait Nicolette Boilet, qu'on a appelée Colette, Sainte Colette, qui a entrepris de réformer ces deux ordres de Saint-François. Or, le monastère des Clarisses de Valleyfield appartient à cette réforme. Il a été fondé en 1902, sur la demande de Mgr Aymard, premier évêque de Valleyfield. Ils ont eu des négociations assez pénibles. C'était long. Et le 17 avril 1902, il y a cinq religieuses du monastère de Lourdes, qui sont parties, pour arriver ici, au Canada, le 26 avril, en la fête de Notre-Dame du Bon Conseil. Elles sont entrées finalement dans leur propre monastère, après avoir résidé chez des sœurs de la Sainte Famille, le 10 août 1902. Le but de cette vie contemplative, évidemment, c'est la louange divine par le Fils divin. Leur occupation, la plus intime, c'est d'aimer l'amour qui n'est pas aimé. Et c'est de prier pour ceux qui ne prient pas, de procurer la gloire de Dieu et l'extension de son règne. Par cet apostolat mystérieux et caché de la prière et de la pénitence, qui irradie à travers tout le corps mystique, comme le sang qui vient du cœur. Leurs moyens sont la séparation complète du monde. À l'époque, leur solitude et leur silence étaient beaucoup plus sévères encore qu'aujourd'hui. Ça favorisait l'esprit de sacrifice afin de purifier l'âme. Et leurs principales austérités, c'était l'abstinence perpétuelle, jamais de viande. Le jeûne à l'année aussi. C'était très sévère. Elles allaient nu-pieds en toute occasion, mais ce n'est plus le cas. Elles couchaient sur la dure, se levaient la nuit de minuit à 2 heures pour psalmodier l'office des matines. Il y avait la méditation aussi, les grandes vérités éternelles. Les heures du jour se partagent entre la prière qui occupe la majeure partie du temps, l'entretien de la maison, car il n'y a pas de sœurs converses chez elles. Toutes les sœurs participent aux travaux et elles font des ornements d'église. Ce sont des austérités qui ne sont pas au-dessus des forces et des tempéraments, disait-on. Mais pourtant, aujourd'hui, si elles les avaient toutes conservées comme d'aller nu-pieds sur la pierre, combien mourraient, mon Dieu! On dit qu'une saine constitution secondée par une volonté énergique peut s'y faire facilement. D'ailleurs, Jésus ne manque pas de récompenser les âmes généreuses et le bonheur qu'il fait goûter à son service, adoucit les sacrifices accomplis pour son amour, fait en sorte que ces religieuses qui ont vraiment la vocation de Clarisse sont les premières à expérimenter combien le joug du Seigneur est doux, son fardeau léger. Comme ne cesse de le redire Sœur Marie-Angèle à ses parents, « Si vous voyez les figures gaies et souriantes ici, je vous assure que ce n'est pas du tout la prison affreuse que vous pensez. Je suis entrée en religion pour devenir une sainte et pour faire aimer le bon Dieu. » La règle de notre saint ordre m'est apparue comme étant la plus parfaite de toutes, et comme étant vraiment celle par laquelle on vit le Saint-Évangile de notre Seigneur. Elle dit, « Je chéris notre bien-aimée pauvreté. Or, dans ce dénuement absolu, là est Jésus. » Notre Seigneur a dit lui-même que l'ordre séraphique, c'est-à-dire les franciscains, les clarisses, les franciscaines, est le jardin de son amour. Sachant cela, qui ne voudrait pas appartenir à la famille que Jésus désigne d'un tel nom? Elle ajoute, ce qui m'a encore attiré, c'est l'esprit de charité tout évangélique de notre saint ordre. Comme le cœur du bon maître doit être consolé par nos efforts à pratiquer l'amour fraternel, son commandement à lui, car dans le monde, on ne pratique plus cette charité. Il y a aussi l'esprit de simplicité qui nous fait décharger sur notre Père céleste tous nos soins, comme le veut saint Paul, parce qu'il prend soin de nous. C'est vrai qu'il dépend de la charité du public. Le jeûne perpétuel, la mortification et le renoncement universel le silence et la solitude, si nécessaires au recueillement et à la vie intérieure, le chant de l'office divin, tout, déclare sœur Marie-Angèle, tout dans notre vie religieuse et franciscaine la rend plus belle, très sainte et très désirable. Alors depuis l'entrée en religion de sa fille, M. Dumas s'est montré d'une générosité sans égale pour les Clarisses de Valépille. Il veut que sa petite reine, comme il l'appelle, ne manque de rien, et à cette fin, il nourrit toute la cour, tout le monastère. Il envoie de grosses boîtes pleines de nourriture et de toutes sortes d'objets utiles à la communauté, qu'il paie lui-même ou qu'il quête auprès des personnes qui ont confiance aux prières de sœur Marie-Angèle. Vous vous demandez sans doute ce qui nous rend si heureuses, écrit-elle, puisque notre vie en elle-même est austère. Je vous assure que nous ne la trouvons pas austère, mais très douce et combien désirable et aimable. Eh bien, ce qui fait toute notre béatitude, c'est notre vie de raison, notre union à Jésus. Aussi, puisque dans les premiers degrés de la vie intérieure où je suis encore, on goûte des joies tout à fait inexprimables, que doit-il en être lorsqu'on est rendu à l'union transformante et au mariage mystique? La Clarisse est appelée à ses hauteurs par sa vocation. Être avec Jésus est un paradis bien doux, dit l'Imitation. L'Imitation dont je vous parlerai jeudi de la semaine prochaine, le 19. Alors, en préparation à sa profession solennelle, sœur Marie-Angèle a composé un travail médité sur la perfection, intitulé « Résumé de ma perfection séraphique ». C'est un ouvrage très intéressant. Les plus belles pages de la vie de sœur Marie-Angèle, car elle en a vécu l'esprit et la lettre, c'est dans ce texte-là qu'on les trouve. Elle-même divise sa méditation en trois points. La nature et la nécessité du travail de la perfection, la pratique de la vie intérieure et les autres moyens pour avancer dans la perfection. Il y a de très beaux passages, comme « Ayant créé tous les hommes pour en faire autant d'élus pour son beau ciel, le bon Dieu veut que nous puissions et dussions nous aider les uns les autres à atteindre le degré de sainteté qu'il a prédestiné à chacun. Il veut aussi que le premier et l'essentiel moyen en soit de travailler à notre propre sanctification, car aucune âme ne monte au ciel sans entraîner d'autres âmes à sa suite. Quelle ineffable consolation de savoir qu'en ne vivant que pour Dieu seul, je travaille constamment, sûrement et très efficacement au salut des autres hommes. Et elle écrit par délicatesse pour le bon Dieu, parce que je suis sienne, je dois donc me réjouir de ce qu'il m'appelle à une sainteté si grande et de ce qu'il me donne dans ma belle vocation de Clarisse, tout ce qu'il me faut pour y arriver. Puisque le bon Dieu m'a fait Clarisse, il veut que je sois une sainte franciscaine, c'est-à-dire, il veut que je donne à ma vie intérieure, à toute ma perfection, le cachet de l'ordre séraphique. L'esprit de notre saint ordre est un esprit d'humilité, de pauvreté, de détachement absolu de toutes les choses de la terre, un esprit de simplicité, de prière, de pénitence, de charité exquise, en un mot, l'esprit même du Saint-Évangile. Elle dit, si tous les hommes sont appelés à la sainteté, voués au salut et à la sanctification des âmes, combien plus moi, épouse du Saint des Saints et co-rédemptrice avec lui? Oh, ma belle et sainte vocation de Clarisse, combien je l'aime et désire la vivre dans toute sa perfection. Tout ce que nous faisons ici a un cachet pieux pour nous élever vers Dieu et nous faire vivre sans cesse dans une atmosphère surnaturelle et divine. Elle dit plus loin, l'oraison est une conversation intime avec l'être suprême et infini, le Dieu de toute beauté et de toute bonté, un doux cœur à cœur, avec le plus tendre des pères, un entretien plein d'intimité avec le même Jésus qui m'a aimé jusqu'à la crèche et jusqu'au calvaire, avec Marie, ma mère bien-aimée, mon ange gardien, tous mes frères et sœurs de l'au-delà, tous les saints. Il est facile de reconnaître une âme qui fait bien ses oraisons. On devient semblable, dit-elle, à ceux avec qui on a de fréquents rapports. Et plus on parle avec Dieu et les saints, plus on s'identifie avec eux. Celui qui est d'en bas est terrestre, et son langage aussi. Mais celui qui est d'en haut n'a que des paroles du ciel. J'aimerais donc à méditer souvent le Saint-Évangile comme vivant au moment où s'accomplissaient les mystères de la vie de Jésus. Car il est certain que dans sa présence divine, Jésus savait alors tout ce que je lui dirais dans mes oraisons. Et elle ajoute que la vie d'oraison me sera douce et facile si je tâche de me pénétrer de plus en plus de la pensée que Jésus a un cœur de chair, un cœur humain comme le nôtre, le cœur le plus délicat, le plus tendre, le plus aimant, le plus sensible, et qu'il désire avec une ardeur infinie d'être aimé, compris, comblé de délicatesse et de tendresse. D'après elle, rien n'est plus profitable aussi que la reconnaissance sous toutes ses formes. C'est une âme d'action de grâce. Elle dit, en passant nos journées à l'aimer, à le remercier, nous trouverons moins longue la route montante qui nous conduit à la fête de l'éternelle action de grâce. C'est comme ce qu'elle appelle le ciel, hein? La vie éternelle. La fête de l'éternelle action de grâce. Ma vie de Clarisse, dit-elle, a été un cantique ininterrompu de reconnaissance. Ma vie de Clarisse, c'est superbe, a été un cantique ininterrompu de reconnaissance. Une Clarisse a écrit à son sujet, « Sœur Marie-Angèle rayonnait, à son insu, la paix et la joie franciscaine, et cela, sans que son entourage en fût particulièrement impressionné, tout en elle étant rayonnement divin, charité, exquise délicatesse, elle fit toujours l'édification de ses sœurs. On s'était toutefois comme accoutumé à toutes les manifestations de sa vertu, si bien que cette manifestation qu'est le sourire habituel et la pleine possession d'elle-même n'attirait pas plus l'attention que les autres. Et pourtant, pour qui analyse maintenant les années religieuses de Sœur Marie-Angèle, on a vite fait de découvrir, sans le chercher tant il rayonne partout, le sourire de suavité calme et paisible qui ne s'est jamais démenti sur ses lèvres et dans son regard. C'est Paul Sabatier qui met sur les lèvres de Saint François d'Assise des paroles vraisemblables qu'il aurait murmurées en quittant Saint Damien lors de son dernier séjour auprès de Claire, Sainte Claire. « Béni sois-tu, mon Seigneur, pour Sœur Claire, la plus suave de toutes les créatures. » Or, on dit en me remémorant ces 13 années que j'ai vécues au contact de Sœur Marie-Angèle, « Un cri s'échappe de mon cœur, dit une religieuse. « Loué, soyez-vous, ô mon Père des cieux, pour Sœur Angèle, la plus douce de vos Clarisse de Valleyfield. » Son père, M. Dumas, qui vivait aux États-Unis, meurt à l'âge de 64 ans le 29 janvier 1937 après une maladie et beaucoup de souffrances et de la pauvreté, même des revers de fortune, ce qui a beaucoup troublé Sœur Marie-Angèle. On voit là le même drame qu'a éprouvé Thérèse l'Enfant Jésus et ses 4 sœurs devant les grandes souffrances de leur père Louis Martin, dont je vous parlerai sans doute un jour. Monsieur Dumas meurt comme notre Seigneur, n'ayant pu prendre même un peu d'eau durant plusieurs jours avant sa mort. Il a rendu le dernier soupir en pressant ce scapulaire brun que sa fille lui avait mis au cou avant son départ. Et Sœur Marie-Angèle écrit, « J'espère que la très sainte Vierge l'a amené au ciel. » Le samedi, le lendemain de sa mort, selon sa promesse. Que va devenir sa mère et la mère, bien de Sœur Marie-Angèle, ne survit que 4 ans à son mari. Elle est morte le 1er janvier 1941, à l'âge de 61 ans, et le souvenir de sa mère va rester constamment dans l'âme de Sœur Marie-Angèle. Il va revenir sans cesse dans ses lettres. Elle est un martyr moral. Pauvre elle. Elle se sent le cœur tellement fermé, dit-elle à sa mère abbesse. Elle a des tentations contre la foi, l'espérance, la charité. Ça ne lui laisse aucun répit. Elle dit, « Ce matin, j'ai pensé reprendre quand même mes actions de grâce. » Ce sont une sorte de litanie interminable, sans forme fixe, mais qui commence toujours ainsi. « Mon Dieu, je me réjouis et je vous rends grâce pour votre gloire et votre félicité inaccessible, etc. » Puis pour votre immaculé, pour tout. Elle dit, « Je vais donc essayer de détourner les yeux de mes misères, et de tant de douloureux mystères qui déconcertent, et reprendre mes cantiques intérieurs, comme pour faire oublier à Dieu mes tristes indélicatesses. Alors l'épreuve de sœur Marie-Angèle devient pire encore en 1940. Elle a des efforts pour sortir de sa misère. Et au début de janvier 41, elle en est venue à un état de faiblesse pire que les précédents. Elle est malade. Elle croit mourir. En janvier 42, des vomissements qui deviennent quotidiens. De novembre 42 à avril 43, on a constaté une évolution dans la maladie de sœur Marie-Angèle. Aussi, dans son intimité avec Dieu, elle lui fait cette demande sublime. « Mon Dieu, laissez-moi assez d'esprit et d'intelligence pour toujours me rappeler que vous êtes infiniment beau, infiniment parfait, et que votre bonheur est immuable, pour vous rendre grâce aussi pour la félicité, la gloire de Jésus et de Marie dans le ciel, pour me souvenir de vos bienfaits, vous en bénir et vous en remercier. » Au mois d'août 1943, sœur Marie-Angèle continue à crayonner quelques bribes détachées de ses sentiments intérieurs. Très simplement, transfiguration, 2 points. Mon apparence extérieure à Marie, mon attention à la beauté et à la blancheur de son âme. Être aussi calme et indifférente que s'il s'agissait d'une autre. Durant le dernier mois d'octobre qu'elle passait sur la terre, chaque jour elle se rendait en frôlant les murs à la tribune des malades pour le salut du Saint-Sacrement et l'exercice du mois du rosaire. Au sortir d'une nuit d'insomnie, elle dit ces mots laconiques. « Je n'avais jamais été capable de dire « Papa le bon Dieu », mais maintenant, il n'en est plus de même. Je comprends la petite Thérèse. » Thérèse l'enfant Jésus qui disait ça. À l'occasion du 2 novembre, 37e anniversaire de sa naissance, une permission est accordée à 2 aides infirmières de lui rendre une courte visite. Elle la trouve toute rayonnante de joie sur son lit de pauvre Clarisse. Le 21 novembre, débute la retraite de la communauté. Chaque jour, elle assiste du haut du jubé des malades, là, au sermon de 4h30. Pas un sermon d'une durée de 4h30, non, celui qui a lieu à 4h30, ne nous méprenons pas. Et le 8 décembre, vers 5h30 du soir, dans un état d'inconscience apparente et d'agitation, sœur Marie-Angèle reçoit le sacrement de l'extrême onction. Dans la matinée du 9, elle semble un peu mieux. La révérende mère abbesse, qui entre à l'infirmerie, regarde sœur Marie-Angèle. Et sœur Marie-Angèle lui tend les bras selon son habitude, et avec une joie d'enfant, elle lui dit, d'une voix claire, au grand étonnement des témoins, « Ma mère, le ciel, par le chemin le plus court. » Alors vite, on s'approche pour l'entendre parler encore, mais ses lèvres remuent, mais on n'entend plus rien. Des sons inintelligibles. On croit comprendre Jésus, Marie, ange. La dernière nuit est plus paisible. La respiration change. Ses membres refroidissent, ses yeux se fixent sur sa supérieure, la mère abbesse, qui est assidue à ses côtés. Sa bouche est desséchée. On lui demande si elle veut recevoir Jésus. L'Eucharistie. Les quelques sons qu'elle émet, on comprend « Oui, ma mère ». À 6h, le prêtre entre pour la communier, une fois qu'elle a réussi à avaler enfin la Sainte-Hostie. Eh bien, l'abbesse se retire avec le prêtre pour célébrer la messe conventuelle. Tout est calme et silencieux. Et alors, la mère abbesse avait recommandé à la mourante de ne pas partir avant son retour de la Sainte Table. L'obéissance jusqu'au bout, hein. Sœur Marie-Angèle attend sa mère abbesse pour rendre le dernier soupir et tout doucement, comme on la voyait toujours aller dans le monastère. À peine mère abbesse a-t-elle eu le temps de remonter à l'infirmerie que sœur Marie-Angèle s'éteint dans les bras de sa mère, sous la bénédiction de cette femme, sa mère abbesse, qui l'a sans cesse orientée vers le ciel et qui lui murmure à l'oreille « Voici l'époux qui vient ». Alors les sueurs froides inondent son front, une larme coule sur ses joues. Sœur Marie-Angèle du Sacré-Cœur est morte en action de grâce, un vendredi, le 10 décembre 1943, pendant l'octave de l'Immaculée Conception. Elle comptait 17 ans de vie religieuse. Comme sa sainte Claire mourante, son attitude disait: « Seigneur, je vous remercie de m'avoir créé. » Sur sa tombe et celle qui n'a vécu que d'effacement, il y avait quand même 15 prêtres qui sont venus déposer leur suffrage et leur prière. De ce nombre, on a remarqué Mgr Paul-Émile Léger, prélat domestique et vicaire général de Valleyfield. Sœur Marie-Angèle du Sacré-Cœur semble bien avoir réalisé le très haut idéal de sainteté proposé dans sa règle évangélique par saint François d'Assise, qu'il désire par-dessus tout d'avoir l'Esprit du Seigneur, de s'élever toujours à Dieu par la prière d'un cœur pur et d'avoir la patience et l'humilité dans la persécution et la maladie, d'aimer ceux qui nous persécutent, nous reprennent et nous corrigent. Celui qui persévérera ainsi jusqu'à la fin, déclare saint François d'Assise, sera sauvé. Pour une religieuse, il n'y aurait rien d'extraordinaire de passer pour une sainte aux yeux du monde. Mais avoir cette réputation au sein de sa propre communauté, aux yeux de celle qu'elle a coudoyée tous les jours, et surtout de ses supérieurs, c'est quelque chose de plus rare et de plus authentique. La mère abbesse de Valleyfield résume l'opinion de toute la communauté en disant: « Défunte, notre chère petite sœur Marie-Angèle est plus vivante que jamais. Le rayonnement par-delà le tombeau est une clarté qui ne trompe pas. L'édification qu'elle a laissée de ses vertus et les témoignages unanimes alloués par une admiration sincère, son incomparable charité, sont, ce me semble, des preuves incontestables d'authenticité. Heureuse la religieuse, n'est-ce pas, qui peut, à sa mort, léguer à sa communauté le souvenir d'une sainte vie. Une sainte vie. Ô mon bien-aimé, je ne demande que ceci, de pouvoir dire, à mon heure suprême, cette parole tombée de vos lèvres divines le dernier soir de votre vie sur la terre: je me suis sanctifié moi-même pour ceux que vous m'aviez confiés. J'ai achevé l'œuvre que vous m'avez donnée à faire, à la suite et à la façon évangélique de François et de Claire. Ô Père, glorifiez votre enfant. » Ce sont des paroles de sœur Marie-Angèle.